Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Didier Lechien, maire de Dinan, vice-président de Dinan Agglomération en charge du tourisme et du patrimoine, également membre du parti Horizon et je pourrais même ajouter président de Cœur Émeraude, le parc Vallée de Rance, Côte d'Émeraude. Voilà pour être complet sur les titres. Bonjour Didier Lechien.
Bonjour à tous.
Alors nous allons parler de politique comme on le fait chaque matin dans la matinale. C'est compliqué en ce moment, ça ne vous aura pas échappé, avec cette présentation du budget que doit faire Michel Barnier en Conseil des ministres aujourd'hui et cet examen qui risque d'être très compliqué à l'Assemblée nationale dans les jours et les semaines qui viennent.
L'examen du budget est toujours un exercice complexe pour tout gouvernement, quel qu'il soit, même lorsqu'il dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui, et ça n'aura échappé à personne, n'est pas le cas de l'actuel gouvernement. Le gouvernement doit faire face à des arbitrages souvent difficiles, douloureux, mais il faut prendre des décisions. Je dirais que la situation financière de la France est quand même assez catastrophique, pour reprendre l'expression notamment d'un certain nombre d'experts et d'économistes. L'endettement atteint des niveaux records. Il y a des explications à cela. Et si la France a pu affronter, sans doute mieux que d'autres, la situation née notamment du ralentissement économique que nous avons connu l'année dernière ou la crise sanitaire, c'est aussi parce que nous avons pris des décisions. Mais ces décisions, elles ont coûté de l'argent. Donc il faut faire face à cette situation. Il faut prendre des décisions courageuses. Et l'exercice n'est pas simple, à la fois pour des raisons économiques, parce qu'il ne faut pas que l'activité, que la croissance, que l'activité des entreprises soit cassée, soit remise en cause, et pour des raisons politiques, parce que le gouvernement ne dispose pas d'une majorité absolue et que sa majorité est fragile à l'Assemblée nationale.
On l'a vu avec le dépôt de cette motion de censure par la gauche, l'Union de la gauche, voilà, qui n'a pas abouti faute de majorité. Mais on peut quand même s'interroger. Il y a le Rassemblement national en embuscade, si vous permettez le terme, qui peut décider demain faire ou défaire ce gouvernement.
Je crois que, oui, ça fait partie un peu des fake news, parce que le Rassemblement national ne peut renverser le gouvernement que si la gauche décide de renverser le gouvernement. Le Rassemblement national seul ne peut pas renverser le gouvernement. C'est une coalition entre les députés du Nouveau Front Populaire et les députés du Rassemblement national qui aboutiront à une motion de censure qui pourrait renverser le gouvernement. Si les uns et les autres ne se mettent pas d'accord, le gouvernement ne peut pas être renversé. Donc la responsabilité, elle incombe tant aux députés du Rassemblement national qu'aux députés du Nouveau Front Populaire. Je crois que c'est important de le dire, parce que cette légende qui voudrait que le gouvernement soit dans les mains du Rassemblement national, à mon avis, ne repose sur rien. Je dirais que si le Parti Socialiste, par exemple, décide de prendre ses responsabilités et de donner à ce gouvernement les chances de mener les réformes qui sont indispensables, ce gouvernement ne sera pas renversé.
Voilà, donc l'avenir va nous le dire finalement. Ce serait dommageable si demain le gouvernement était renversé justement par une forme de coalition extrême-gauche, extrême-droite.
Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Notre pays a aujourd'hui besoin de stabilité. J'ai évoqué la situation budgétaire, qui est une situation grave. On pourrait aussi évoquer la situation internationale. Notre pays doit faire face à des défis majeurs au niveau international. La guerre en Europe avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui se passe au Moyen-Orient et qui est extrêmement inquiétant, les fractures que nous connaissons aussi dans la société française. Tout cela demande de la part des élus, des responsables politiques, qu'ils fassent preuve de responsabilité. En conscience, je dirais qu'il faut que ce gouvernement réussisse. Michel Barnier est un homme d'État. Je crois que personne ne le peut le nier. C'est un homme responsable. C'est un homme qui a montré ses compétences au long de sa carrière et en particulier lorsqu'il a négocié les conséquences du Brexit avec la Grande-Bretagne. Et il faut donner à ce gouvernement, je dirais, les moyens de gérer les affaires de l'État et de réussir. Parce que je dirais que la France ne peut pas se permettre que ce gouvernement échoue, ne peut pas se permettre que ce gouvernement soit renversé. Nous avons besoin de stabilité et nous avons besoin que des réformes structurelles soient menées à bien.
Alors des réformes qui font un petit peu grincer des dents, on pense à la réforme des retraites, la réforme sur l'assurance chômage, et puis ça nous ramène encore au budget avec les attentes des Français. Ils se sont prononcés lors des élections européennes et législatives, avec une forte poussée là encore du Rassemblement national. Il y a une alerte, il y a une demande, il y a une colère aussi.
La colère, elle est indéniable. Et en effet, le score du Rassemblement national aux élections européennes et au premier tour des élections législatives est révélateur de cette colère, de cette exaspération. On peut l'expliquer de multiples facteurs. J'ai parlé tout à l'heure du contexte international, du contexte économique, des fractures de la société. On pourrait parler de la disparition des services publics.
C'est une grande interrogation des Français.
Tout à fait. C'est de la disparition de certains services publics, en particulier dans les zones rurales. Le sentiment d'être abandonné, d'être oublié. Tout cela crée de la exaspération. La difficulté, par exemple, à trouver un médecin généraliste, à avoir une consultation de spécialistes, ou devoir se déplacer à 50, 60, voire davantage de kilomètres. Tout cela crée de la colère, crée de l'exaspération. Et le rôle d'un gouvernement, le rôle des responsables politiques, c'est de répondre à cette exaspération. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mis autant d'argent, on a la pression fiscale en France est une des plus importantes en Europe, même si elle a baissé au cours de ces dernières années, mais c'est une des plus importantes en Europe. Et en même temps, les Français ont le sentiment que ce qui fait quelque part l'ADN de la France, c'est-à-dire la qualité de ses services publics, eh bien tout cela est en train de s'étioler. Et donc ça crée bien évidemment de la colère. Et je crois qu'on n'a pas non plus mesuré suffisamment les conséquences de la crise sanitaire. C'est-à-dire que le repli, ça a provoqué du repli sur soi. Et je crois qu'on a du mal aujourd'hui, il faut le dire, parfois à supporter tout simplement son voisin. Voilà, et que le moindre incident crée de l'exaspération, crée de la colère. Et au milieu de tout cela, mais il y a les élus locaux qui doivent gérer les contradictions des uns et des autres, répondre aux attentes avec des moyens qui sont de plus en plus limités. Et ça peut se traduire parfois par de la violence. On l'a encore vu récemment avec mon collègue maire de Saint-Brieuc, qui a été victime d'une agression, d'une lâche agression, et qui doit bien évidemment être très très vivement condamné. Et ça interroge aussi sur l'avenir de la démocratie locale, parce que beaucoup de mes collègues, beaucoup d'élus aujourd'hui se demandent s'ils vont être à nouveau candidats aux élections municipales dans 18 mois. Et on peut craindre que dans certaines communes, et en particulier dans les plus petites, on ait des difficultés à trouver des candidats. Et là, je dirais que ça devient préoccupant, parce que ça veut dire à la fois c'est une crise de l'engagement et c'est une crise de la démocratie. Et de la difficulté à faire vivre la démocratie au niveau local. Et moi, je me souviens d'une citation, une phrase de Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, qui disait « Les élus locaux, les maires, c'est la colonne vertébrale de la République. Et s'il n'y a plus de maires dans certains territoires, s'il n'y a plus d'élus locaux, s'il n'y a plus de gens, de femmes et d'hommes, des hommes qui veulent s'engager, eh bien, ça interroge sur l'avenir de notre démocratie, sur sa vitalité. »
Alors, dans des villes comme Dinan, vous êtes maire de Dinan, je le disais en commençant, au niveau de la démocratie locale et au niveau des administrés, est-ce que vous avez, vous, en tant que maire, subi des pressions, des violences parfois ?
Pour l'instant, je dois dire que moi, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que les Dinanais sont avec moi plutôt sympathiques, respectueux. Et on est dans l'échange, dans le dialogue. Je ne dis pas qu'ils sont toujours d'accord. Ils peuvent m'interroger, parfois vivement, mais on est toujours dans le respect. Maintenant, moi, en tant que maire de Dinan, je sens aussi, c'est bien évidemment, ces fractures, cette exaspération, cette colère, ces attentes, qui se manifestent de diverses manières. On a parlé tout à l'heure de la violence que peuvent ressentir les élus locaux, mais ça se manifeste aussi par le non-respect des règles tout simplement de vivre ensemble, des règles de stationnement, de circulation, dès que l'on fait des remarques, eh bien tout de suite, ça peut créer de la violence verbale, voire physique dans certains cas. Tout cela, c'est révélateur d'un malaise ou de fracture que connaît la société française, et qu'il va falloir réparer, c'est notre responsabilité à nous élus, et c'est pour ça qu'il faut nous en donner les moyens.
Alors les moyens, il y a les moyens sur le terrain, puis il y a les moyens financiers. On a entendu, on en parlait ce matin dans la revue de presse, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine qui s'alarme en disant on ne va pas arriver à boucler notre budget. Il y a quelques semaines, il a signé une tribune aux côtés de ses collègues de Loire-Atlantique et de Christian Coy, ici le président du conseil départemental. Il y a une urgence aussi à abonder, alors on est en crise budgétaire, on l'aura compris, c'est compliqué, mais à abonder les caisses des territoires, les caisses des conseils départementaux, régionaux, des mairies. L'État doit faire son travail à ce niveau-là pour donner les moyens.
C'est vrai que l'exercice budgétaire en cours est un exercice compliqué. Moi, je ne voudrais pas être ministre de l'économie et des finances aujourd'hui.
Je crois que ça ne se bousculait pas au portillon.
Au Premier ministre, et vous avez raison, je crois que ça ne se bousculait pas au portillon pour prendre ses responsabilités qui sont très très lourdes. Et dans un contexte qui est particulièrement difficile. Donc, l'exercice n'est pas simple. C'est-à-dire entre faire des choix parce qu'il faut bien évidemment raboter dans les dépenses. Je vous rappelle quand même que notre dette publique a complètement flambé. On est à plus de 5% de la richesse nationale. On est à plus de 3 000 milliards. On a du mal à se représenter ce dont il s'agit.
Mais 3 228
milliards, voilà, exactement. 3 228 milliards de dette publique. Donc, c'est selon des chiffres considérables. Et cette dette a considérablement augmenté ces dernières années, puisque lorsque Édouard Philippe était Premier ministre, on était descendu à 2,9% de la richesse nationale et là on est très largement au-dessus des 5%. Donc voilà, j'ai donné les raisons tout à l'heure. Alors les collectivités locales sont appelées à participer, à participer à l'effort national. Il ne s'agit pas pour les responsables locaux, bien évidemment, de s'exonérer de leurs responsabilités. Mais je rappelle quand même que les collectivités locales, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions votent leur budget en équilibre. À la différence de l'État qui, depuis les années 70, vote son budget en déficit, nous sommes tenus de voter nos budgets en équilibre. Et nous faisons des efforts dans notre fonctionnement. Il est hors de question de mobiliser de l'emprunt, par exemple, pour payer nos agents communaux, pour payer le fonctionnement des services publics de proximité. Par contre, dans l'investissement, en effet, on est appelé à mobiliser l'emprunt. Rappelez aussi que l'investissement des collectivités locales, c'est plus de 70% de l'investissement public. Donc, faisons attention de ne pas hypothéquer l'investissement des collectivités locales, faute de quoi c'est l'activité économique globale qui va s'en ressentir. Nous sommes parmi les premiers de Nord-Orne, par exemple, pour les entreprises de bâtiments et des travaux publics. Si nous réduisons les travaux de voirie, si nous réduisons les travaux dans nos bâtiments qui sont indispensables, de la transition énergétique notamment, eh bien ce sont les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui vont en subir les conséquences, et donc l'emploi à terme, et l'emploi local, car ce sont des entreprises qui sont implantées localement. Donc il faut être très très vigilant. Et je dirais que si la République tient encore, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est justement parce que les collectivités locales, et en particulier les communes, sont fortement mobilisées, apportent des services publics, et pour cela elles ont besoin de moyens, bien évidemment, pour faire fonctionner les services publics. Donc c'est un exercice compliqué. Alors j'ai lu en effet que les collectivités locales étaient appelées à hauteur de 5 milliards d'euros à l'effort budgétaire, que c'était les 450 collectivités les plus riches, je dirais, qui seraient appelées à contribuer. Les associations d'élus, je dirais, sont un petit peu vent debout contre les préconisations qui sont aujourd'hui, alors c'est pas encore arrivé au Parlement, mais qui sont aujourd'hui sur la table. Voilà, donc ça va faire l'échange de débats entre les responsables de ces associations, le gouvernement. Mais voilà, les points de vigilance, faisons attention de ne pas remettre en cause ce qui marche. Les communes, ça marche. Ça rend du service, ça répond à l'attente des gens. On pallie aux déficiences parfois de l'État, parfois du secteur privé. Et si on commence à casser, à nous casser les reins, là, on peut avoir quelques inquiétudes.
Si on casse la dynamique, justement, on peut s'inquiéter pour la République, ou alors il faut passer à autre chose, une autre République, tenez. On en entend beaucoup parler de cette 6e République.
Alors, la République, elle était, je dirais qu'elle est intangible. Depuis la Révolution française, la République, ce qu'elle représente, ça veut dire la chose publique, c'est-à-dire l'attachement que nous avons les uns et les autres, d'abord à notre pays, à la France, il faut le rappeler, à ce qui fait que nous sommes fiers d'être Français, et nous l'avons encore vu à l'occasion des Jeux Olympiques. Tout cela, bien évidemment, je dirais, ça nous dépasse, et ça nous survit, et heureusement. Et puis, il y a les institutions et le fonctionnement des institutions. La 5e République, la 6e République. La 5e République, elle donne tous les moyens de fonctionner. Elle donne tous les moyens de fonctionner. Est-ce qu'il faut, à chaque fois qu'il y a une crise, vouloir changer de République? Par contre, qu'il y ait, je dirais, des modifications à apporter au fonctionnement des institutions, sans doute. Je pense, par exemple, qu'il faut renforcer le rôle du Parlement. Je dirais qu'un homme seul, le président de la République, qui décide de tout, qui se mêle de tout, ce n'est pas sain pour la démocratie. On a besoin, au contraire, de redonner toute sa place au débat parlementaire. Il faut redonner du pouvoir au Parlement, c'est indispensable. Et il y a aussi une réflexion à avoir sur le mode de scrutin, notamment sur la proportionnelle, qui permette à l'ensemble des formations politiques d'être justement, valablement représentées au sein de l'Assemblée nationale. Faisons attention néanmoins avec la proportionnelle de ne pas revenir, comme disait le général de Gaulle, au régime des partis. C'est-à-dire que la proportionnelle, ce sont les partis politiques qui choisissent les candidats. Donc il faudra faire en sorte que les députés, si nous devions aller vers ce nouveau mode de scrutin, que les députés apprennent, restent aussi proches du terrain. Et puis, il y a aussi peut-être un changement, plus qu'un changement institutionnel, c'est presque un changement culturel qu'il faut avoir dans le milieu politique français. Une révolution culturelle même, c'est apprendre la culture de la coalition. C'est-à-dire que, et la proportionnelle nous obligera à le faire. Culture de la coalition, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à discuter, échanger avec les autres, construire ensemble des programmes. Le comportement de Jean-Luc Mélenchon et du Nouveau Front Populaire au soir des élections législatives a été détestable. C'est-à-dire, d'abord, il n'avait pas gagné les élections, puisque personne n'a gagné les élections. C'est le Front Républicain pour éviter que le Rassemblement National ne remporte la majorité. Donc personne n'a gagné les élections. Et de dire, il faut que ce sera le programme du Nouveau Front Populaire et tout le programme du Nouveau Front Populaire, mais ça a été une erreur absolue. Ça ne correspondait pas d'ailleurs à ce qu'attendaient les Français. Les Français, ils attendaient que les uns et les autres se mettent d'accord autour de grandes orientations pour sortir le pays de l'ornière, de la crise qu'ils traversent. Voilà.
Est-ce qu'il faut donner aujourd'hui, pour aller un peu plus loin dans la réflexion, plus de moyens, alors d'autonomie, je sais que c'est le mot, j'ai posé la question à plusieurs invités qui se sont succédés au micro de la matinale, est-ce qu'il faut donner plus d'autonomie aux régions? Alors autonomie, ça fait toujours un petit peu peur, mais en tout cas, une plus grande décentralisation et peut-être un plus grand pouvoir de décision avec les moyens qui vont avec aux collectivités territoriales, on pense aux régions par exemple, ou aux communautés de communes ou d'agglos.
Alors, qu'il faut préciser la décentralisation, ça c'est indispensable. Je dirais qu'aujourd'hui, au niveau local, nous connaissons un enchevêtrement des compétences qui n'est pas forcément clair et qui n'est pas forcément source d'efficacité.
Il faut clarifier finalement.
Donc je pense qu'il y a besoin de clarifier la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Je pense notamment aux intercommunalités et aux communes, où un certain nombre de maires de communes, en particulier des plus petites, ont du mal à se retrouver dans le fonctionnement de nos intercommunalités. Et ça doit nous interroger. Donc on doit clarifier, le fonctionnement, la répartition des compétences entre les uns et les autres, et donner à chaque niveau les moyens de fonctionner. Même nos concitoyens ont parfois du mal à s'y retrouver, de savoir qui, de la commune, de l'intercommunalité, du département, de la région, qui fait quoi. prendre l'exemple du tourisme que je connais un petit peu, la compétence tourisme, elle est éclatée façon puzzle, c'est-à-dire entre plusieurs, pour reprendre l'expression d'un film célèbre, entre tous les niveaux de compétence. Tout le monde a conservé un petit bout de compétence en matière de tourisme. Et ce n'est pas de nature, là aussi, à générer forcément des économies, on en parlait tout à l'heure. Donc, besoin de clarifier les compétences. Besoin, en effet, de reconnaître aux collectivités territoriales les moyens de leurs moyens de fonctionner et qu'elles sont en capacité de fonctionner. Dans ce pays, on a conservé en fait l'esprit de tutelle, c'est-à-dire que l'on a et qui s'est un peu renforcé ces 10 dernières années. C'est-à-dire que on a mis les collectivités sous tutelle d'une façon ou d'une autre, qui peut être une tutelle financière à part le biais des appels à projets. Les appels à projets, c'est quoi? On met les collectivités en concurrence les unes avec les autres, et puis celles qui présentent un projet un peu plus intéressant que les autres, on va la retenir et puis l'autre elle se retrouve sans moyens. Donc les collectivités locales, elles ont toutes les communes, les intercommunalités, elles ont un esprit d'initiative, elles ont des mots, voilà. Donc il faut préserver ça, elles ont une connaissance fine du territoire, de leur population. Plus de compétences aux régions aussi. Je pense que les régions mériteraient en effet d'être voir reconnues une certaine, pas autonomie, parce que on est dans un pays où la République, on en parlait tout à l'heure, ça veut dire quelque chose, et les Français sont égaux en droit et en devoir. Mais par contre, leur donner plus d'autonomie dans leur capacité à faire. Mmh. Moi, par exemple, je serais d'avis que dans l'organisation de la santé, on donne plus de pouvoir aux régions. Ça, c'est un vieux débat, mais ça me paraît indispensable. Et dans notre département, entre l'hôpital de Guingamp, Dinan, Saint-Brieuc, Paimpol, Lannion, c'est un vrai sujet. Mmh. Et comment on organise l'offre de soins sur le territoire? Comment on organise l'offre hospitalière sur le territoire? Les complémentarités. Il faut bien évidemment qu'on ait une offre hospitalière différente, innovante, parce que voilà, il y a des enjeux aujourd'hui très forts en matière de santé. Si c'est décidé d'un ministère parisien avec des tableaux Excel, je dirais qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne et que ça réponde aux vrais besoins de la population.
Oui, parce qu'il n'y a pas la réalité du terrain, finalement.
La réalité du terrain, la proximité, l'efficacité, la lisibilité. Et c'est pour ça que moi, je suis un Girondin, je suis attaché à cette pleine responsabilité des collectivités territoriales. Et puis, le droit à l'initiative et le droit, je dirais, à l'expérimentation. Ce qui est valable à Dijon ou à Toulouse ne l'est pas forcément à Rennes ou à Saint-Brieuc ou à Dinan. Voilà, donc donnons aux collectivités le droit à expérimenter des choses. Voilà, et puis la Bretagne a quand même une identité particulière qu'il faut aussi préserver, défendre.
Voilà,
et valoriser.
Identité culturelle, linguistique,
patrimoniale. Régionale. Oui, tout à fait, il faut la préserver.
Alors, il y a eu des exemples. Il nous reste trois petites minutes, on va être très rapide, mais je voulais vous entendre aussi sur des enjeux qui sont économiques, qui sont aussi de mobilité et d'environnement. On l'a vu avec la réfection de la ligne Lamballe-Dinan, ou Dinan-Lamballe selon le sens dans lequel on la prend, où la région a beaucoup investi, où les communautés territoriales ont beaucoup investi également. Est-ce que ça peut être un exemple qui peut essaimer? Voilà, on a cette complémentarité de financement et de volonté, est-ce que ça peut essaimer sur d'autres domaines ?
Oui, ça peut essaimer. Alors, sur les mobilités, moi, je me réjouis d'ailleurs que les collectivités, j'étais vice-président aux mobilités de Dinan Agglomération à l'époque, lorsque, avec Gérard Lahellec, qui est devenu sénateur depuis, mais qui était vice-président de la région en charge des mobilités, on a vraiment porté, initié cette modernisation de la ligne SNCF qui n'avait pas été modernisée depuis 1925. Et la région a joué vraiment toute sa part, il faut le dire. Et sur les mobilités, il y a aussi beaucoup de choses à faire, parce que la SNCF, je dirais, n'est pas forcément le premier investisseur dans l'entretien des lignes. S'il n'y avait pas les collectivités locales, très sincèrement, le réseau des petites lignes ne serait aujourd'hui quasiment inexistant, en Bretagne comme partout ailleurs sur le territoire national. Donc ce genre d'expérience, bien évidemment, ça peut être... On peut s'en servir pour d'autres sujets. J'ai parlé de la santé tout à l'heure, l'université, la recherche, où là aussi nous avons... Il y a plein de choses à faire dans le domaine de la recherche. Il faut préserver la recherche en France. Voilà, l'avenir, c'est la recherche. Donc il faut tout faire pour garantir la recherche. Avec un regret, c'est que dans la préparation du budget, dans la proposition de budget, il y a une forte réduction, si j'ai bien lu les différents commentaires, du fonds vert, par exemple. Le fonds vert qui va être réduit à la portion congrue. Or, ce fonds vert, il est indispensable pour assurer la transition énergétique de notre territoire, de la transition écologique de nos territoires, pour nous permettre justement d'affronter les enjeux climatiques. Et je pense que ce serait une erreur, par exemple, de réduire ce fonds vert. Donc, il faut qu'on l'en poursuive dans cette voie, et les collectivités territoriales, quel que soit leur niveau, ont une responsabilité imminente dans ce domaine.
Un tout dernier mot de politique qui vous concerne, puisque je le disais en commençant, vous êtes membre du parti Horizon d'Édouard Philippe. Édouard Philippe s'est déclaré très tôt, possible présidentiable, on va le dire comme ça. La campagne a peut-être commencé sur le terrain, je ne sais pas, vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Mais est-ce que ça peut être le président qui peut apaiser le pays demain, en 2027
hein? Alors Horizon fait ses 3 ans aujourd'hui.
Voilà, donc, bon anniversaire.
Donc Horizon fête ses 3 ans. Édouard Philippe, en effet, fait acte de candidature. Clairement, c'est un homme d'État. Je dis que lorsque, à la fin de son mandat de Premier ministre, le déficit public était ramené à 2,9%, bon, je le connais un petit peu, il est venu à Dinan il y a quelques mois, c'est un homme d'État, c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui a une compétence qui est reconnue par tous. Et qui peut beaucoup apporter à notre pays, permettre à notre pays de se réconcilier. Il faut être ouvert à tout le monde. Je crois qu'il faut être ouvert au débat, il faut être ouvert à tous, et il faut considérer que notre société elle a besoin d'être recousue. Et pour cela, il faut un homme qui, demain, pourra être président de la République, qui sache justement, réconcilier les uns et les autres, permettre à chacun de trouver justement sa place dans la société française.
Le dialogue, l'écoute, le partage, on pourrait le dire comme ça.
Le dialogue, l'écoute, le partage, le sens des responsabilités, la transparence aussi, et parler un langage de vérité. Et faire en sorte de ne pas fracturer les Français, de ne pas opposer les Français les uns aux autres, mais au contraire, leur dire que nous avons la chance de vivre dans un pays exceptionnel. Nous avons la chance de vivre en Europe, qui est aujourd'hui dans ce monde de turbulence, dans ce monde qui fait peur quelque part, qui est un havre de paix, où il se passe plein de choses intéressantes, et leur dire aussi que la société française, que nous avons réussi plein de choses en France, et que nous avons les capacités, pour affronter l'avenir avec optimisme, si nous nous en donnons les moyens et si nous savons rester rassemblés.
Eh bien, nous étions ce matin avec Didier Le Chien, maire de Dinan, vice-président de Dinan Agglomération, en charge du tourisme et du patrimoine, également président de Cœur Émeraude, parc Vallée de la Rance et Côte d'Émeraude. On a parlé de tourisme tout à l'heure, et également membre du parti Horizon. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu en direct au micro de la matinale de Bretagne.
Merci
5.
À tous.
Je vous souhaite une très belle journée.
Bonne journée à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.